Merci, Trevor.
Merci pour le fait que cette parole tombe dans une bonne terre et qu'elle porte du fruit, car c'est le but, c'est exactement le but pour lequel je suis en haut, mais c'est exactement le but pour lequel vous êtes ici, afin que ce que vous allez entendre aujourd'hui puisse porter du fruit. Bien, dans le dans la série « Connecter pour grandir », j'avais le titre de mon message et le principe de la croissance. Naturellement, lorsqu'on parle de grandir, on doit établir des principes. On doit établir des choses qui doivent être faites absolument. Et j'aimerais qu'on regarde dans le texte qui va nous occuper dans Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 37. Et on pourrait lire à partir du verset 34. Matthieu 22, 34. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ce que notre frère Brigitte a mentionné tout à l'heure. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a encore un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Dans d'autres versions, on dit, les lois et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Le principe de croissance, si on regarde au départ, doit avoir des bases. Et Jésus nous dit que c'est ces bases-là qui sont importantes. J'ai beaucoup aimé ce que Théophile nous a dit la semaine passée, nous a écrit la semaine passée dans le bulletin. La vie chrétienne, c'est comme aller à bicyclette. Où tu avances, où tu tombes. Je connais des artistes sur la bicyclette qui peuvent rester très longtemps sur place, sans bouger, mais ils finissent toujours par tomber. Soit tu avances, soit tu grandis, ou soit tu tombes. Et je vous le dis franchement, on en a des preuves et des preuves de cela. Si on revient à notre texte, dans la parole de Dieu, il y a des versets qui n'ont pas besoin d'être examinés on n'a pas besoin d'être un grand exégète pour comprendre le verset. Il n'y a pas de complexité théologique. Ce qu'on lit dans ces versets, c'est une grande simplicité. On pourrait poser toutes sortes de questions, c'est quoi le cœur, c'est quoi l'âme, c'est quoi la pensée, et ainsi de suite, tout débattre là-dessus. Mais le mot-clé de ces deux versets, c'est le mot « aimer ». On est d'accord là-dessus. Et Jésus qualifie ces deux commandements de « grands ». Et d'ailleurs, de plus grands, les plus grands, le plus grand commandement et sont semblables. Et Jésus explique la grandeur de ces versets, de ces commandements, du fait que toute la loi et les prophètes reposent, s'appuient sur ces versets, sur ces commandements. Et j'aime ça fonctionner avec des images. Okay? J'aime ça imager les choses que ça m'amène à mieux comprendre. Et on peut parler d'une porte. Une porte dépend de ses pentures. C'est clair. Prenez les portes ici en arrière, enlevez les pentures de la porte, et les portes deviennent juste des panneaux vitrés que vous allez mettre partout. Mais ils ne feront plus leur job de porte parce qu'ils n'ont plus de pentures. Ces deux commandements font le même travail. Vous pouvez dire, voici toute la loi. Bien, je vais te dire deux choses très claires. Aime Dieu et aime les autres. Tout ce que tu peux bâtir, tout ce que tu veux bâtir comme chrétien, qui respecte la volonté de Dieu devra avoir comme fondement ces deux commandements. Dans la forme la plus simple, si on prend la vie chrétienne dans sa forme la plus simple, ça tient à 6 petits mots. Aime Dieu et les autres personnes. Tout simplement, aime Dieu et les autres personnes. J'ai oublié d'avancer. Non. J'ai besoin d'attacher ce grand principe qui est important dans la vie chrétienne à quelque chose de plus concret, de plus palpable. Chacune des vies sur la terre a ce qu'on appelle des signes vitaux. Les signes vitaux, il y a beaucoup d'infirmières dans la salle, là, et on sait, vous savez c'est quoi les signes vitaux. Ceux qui sont patients à l'hôpital, là, c'est ce qui vient de vous déranger toute la nuit là, pendant que vous essayez de dormir pour prendre vos signes vitaux. Donc, vos signes vitaux sont excessivement importants. Les signes vitaux du corps humain, vous me reprendrez, mademoiselle, si je ne suis pas correct. La température, le pouls, la respiration, la pression artérielle, ça, c'est des signes vitaux. Même sur un arbre, il y a des signes vitaux. Les feuilles, les fruits, la sève. Je ne suis pas botaniste, là. Mais il y a des signes vitaux qui permettent de dire qu'il y a vie, qu'il y a santé. C'est les premiers indicateurs de santé. C'est la même chose pour la vie spirituelle. La vie spirituelle a des signes vitaux. Et les signes vitaux sont aimer Dieu, avoir une relation avec Dieu, une véritable relation avec Dieu, expérimenter une communion avec ceux qui pensent comme nous, et influencer ceux du dehors à l'amour de Dieu. C'est les signes vitaux. Ça ne fonctionne pas, oui. Voilà, OK. Voici les signes vitaux. Aimer Dieu. Aimer Dieu veut dire avoir une véritable... C'est-tu moi, c'est-tu ma barbe qui fait ça ou... Non? Oui? Ouais. Je m'excuse. Ça va aller comme ça, je pense. Tu demanderas à mon épouse si tu veux. Faut-tu passer le corps de mon épouse avant? Aimer Dieu. Aimer Dieu, avoir une véritable relation avec Dieu. Avoir une relation profonde et qui se développe. Avoir une relation qui se développe dans le temps, une relation qui se développe au quotidien. J'apprends jour après jour à connaître Dieu et avoir cette relation avec lui. J'apprends jour après jour à être avec lui et lui avec moi. Expérimenter une communion avec ceux comme nous. Une véritable communion. Et c'est important. L'Église a été créée par Dieu. Ce n'est pas des hommes qui ont créé l'Église, là. C'est Dieu qui a créé l'Église, dans un but très précis. Dans deux buts très précis. Évangéliser et qu'on se tienne ensemble et qu'on grandisse ensemble. Donc, la communion aide à la croissance, et non seulement aide à la croissance, mais permet un bon environnement qui permet de grandir. Et la troisième chose, influencer ceux de l'extérieur. Ces trois choses-là sont les signes vitaux d'une croissance spirituelle. Ces trois signes vitaux-là nous permettent de voir une vie spirituelle saine et par le fait même une croissance spirituelle. Vous savez, c'est quoi les signes vitaux? On n'établira pas là-dessus toute une étude, là. Mais c'est indispensable à la vie. Si Rebecca, tu rentres dans une chambre et tu n'as plus de pouls, tu vas paniquer. Non. La femme de ce monsieur-là va paniquer. Oui. Il y a quelqu'un qui va paniquer à quelque part. Et si tu as un pouls très faible, il faudra que tu fasses de quoi pour améliorer. et ainsi de suite. C'est une marque de bonne santé. La direction de l'Église n'a pas la responsabilité de la croissance des membres de l'Église. C'est gros ce que je viens de dire. La direction de l'Église n'a pas la responsabilité de la croissance des membres de l'Église. Par contre, elle a la responsabilité de créer un environnement propice au développement de la croissance. Même chose pour mon environnement chez moi. Je n'ai pas la responsabilité de la croissance de mon épouse. Et mon épouse n'a pas la responsabilité de ma croissance. Ça nous appartient à nous, personnellement. Mais l'un et l'autre, c'est notre responsabilité de créer un environnement propice à la croissance. Un environnement où on peut développer notre croissance spirituelle. Tout ce qui va se passer par la suite est relationnel, et dépend de chacun de nous. Monsieur Morissette, qui est venu ici il n'y a pas longtemps, disait dans une de ses formations, il prenait l'exemple d'un nouveau-né qui arrive à la maison. Qu'est-ce qui fait qu'un nouveau-né grandit en stature et en sagesse? Ce n'est pas la structure, c'est le relationnel. C'est pas le berceau ou la table allongée qui va faire sourire le bébé. C'est pas ces beaux draps duveteux qui vont faire grandir le bébé. Écoute ça comme il faut, Marie-Ève. Si le bébé sourit, c'est parce que quelqu'un lui a souri avant. Si le bébé fait des câlins, c'est parce que quelqu'un lui en a fait. Si le bébé marche, quelqu'un l'a motivé, l'a encouragé à le faire. La croissance du bébé dépend de la relation qu'il établit avec ceux qui l'entourent. La croissance spirituelle dépend en grande partie de la relation que vous avez avec les autres. Mais la croissance vous appartient. Rappelez-vous les signes vitaux. Une relation profonde avec Dieu. Une communion avec les saints. Et une influence pour ceux du dehors. Non seulement ces trois points-là sont vitaux et importants dans la vie chrétienne, mais l'ordre dans lequel ils sont énumérés a aussi son importance. Si j'ai pas d'abord une véritable relation avec Dieu, je vais avoir de la difficulté à comprendre une vraie communion des saints. Si j'ai pas de communion avec les saints, je ne serai pas une influence pour ceux du dehors. Et j'aimerais vous démontrer ces phrases par la parole de Dieu. Et on revient à nos six petits mots de l'entièreté de la vie chrétienne. Aime Dieu et les autres personnes. Si on aime Dieu, le seul moyen qu'il prouve est d'établir une relation avec lui. On part du fait qu'un jour, on a invité Dieu dans notre vie. On a peut-être établi une relation avec lui par une prière, par un dialogue ou un monologue vis-à-vis de Dieu, et Dieu un dialogue à travers sa parole. Et là, on a appris à le connaître tranquillement. Mais on a développé quelque chose au départ. Et si vous n'avez pas établi cette relation-là avec Dieu, si vous n'avez pas mis Dieu dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de le faire. Là, tout de suite. Et Dieu a été réjoui. On dit souvent qu'il y a des acclamations à chaque fois que quelqu'un accepte le Seigneur. Il y a des acclamations aux cieux à chaque fois que quelqu'un accepte le Seigneur. Mais Dieu est réjoui et désire être en relation avec nous. Sa parole nous apprend qui est Dieu et il nous amène à agir de manière différente. Parce que Dieu a manifesté l'amour qu'il a pour moi en me disant « Je veux que tu sois avec moi pour l'éternité. » Dieu veut cette relation-là intime avec nous. La plus grande marque d'amour que je puis manifester à mon épouse, ce n'est pas des fleurs, puis du chocolat, puis toutes sortes de dire qu'elle est belle. C'est vrai. C'est le fait que je désire être avec elle. C'est la plus grande marque d'amour qu'on peut avoir envers quelqu'un. Je désire être avec toi. Et mon temps, tu vas faire partie de ma vie le plus intensément possible. C'est la même chose pour Dieu. Sa présence éternelle nous prouve son amour. Maintenant, imaginez, messieurs, dames, que vous dites à votre épouse, « Chérie, on va passer une semaine ensemble. Et pendant cette semaine-là, notre seule préoccupation sera le bien-être de l'autre. Je vais tout faire pour que tu sois bien. Même si j'haïs te masser, tu vas avoir droit au massage. Pendant cette semaine-là, ma seule préoccupation, ça va être toi. Et vice-versa. Maintenant, imaginez que votre épouse dit, une semaine. Là, vous me dites, c'est correct. Une semaine, c'est long, pas mal. Un avant-midi, pourvu que j'aille ma TV en même temps que toi, tu sais. Vous rendez-vous compte? Il y aurait probablement un déjeuner-causerie qui se ferait, là. Pas un déjeuner-causerie, un brunch-causerie. C'est la même chose pour Dieu. Maintenant, Dieu nous dit, « Mon enfant, j'aimerais tellement bâtir une relation avec toi. J'aimerais avoir une relation profonde. J'aimerais que tu développes, j'aimerais qu'on se connaisse mieux. Moi, je te connais, mais toi, tu peux apprendre encore à me connaître. » Et que l'enfant dise, « Ouais, j'ai mon péché, tu sais. » J'aime bien mon péché dans ma vie. J'ai mon idole aussi, qui me fait beaucoup plaisir. Si tu veux, là, je vais te garder pour les moments difficiles, comme Spire. OK? Ça marche-tu? Comment est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu aimerait cela? La relation avec Dieu est importante. Dieu désire un amour sans compromis, un amour total, une relation qui comprend le cœur, l'âme et la pensée. Il y a toujours deux questions qu'on devrait avoir à la mémoire lorsqu'on médite sa parole. Comment est-ce que je vis peut rendre gloire à Dieu? Comment est-ce que Dieu dans ma vie peut avoir l'impact? Et comment je peux faire en sorte que Dieu et dans ma vie, que Dieu est glorifié à travers ce que je vis. Que ce soit heureux ou malheureux, c'est toujours la gloire de Dieu qui prime. Et qu'est-ce que j'ai appris qui va me faire grandir à travers ce que je vis? La qualité de ce signe vital-là va influencer grandement les deux autres signes vitaux. Jésus fait le lien entre le premier commandement et celui qui est semblable. Jésus enseignait cela à ses disciples. Dans l'évangile de Jean, j'ai une tablette que je vais tourner les pages. L'évangile de Jean, au chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, Jésus fait un lien direct entre l'amour que nous avons pour Dieu, et le fait de nourrir et prendre soin des agneaux et des brebis. Jean 21, à partir du verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui répondit, « prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? On est porté à comprendre que Pierre, qui était un leader, un pasteur, que c'était sa job, que c'était sa tâche de nourrir, prendre soin des gens autour de lui. Et Pierre et ceux qui font à la suite de Pierre, les pasteurs, les anciens, etc. Mais ce n'est pas ma job à moi. Pourtant, Jésus n'a pas dit, « Pierre, vu que tu es un leader, vu que tu es un pasteur, vu que tu es un ancien dans l'Église, prends soin de mes brebis. » Est-ce que c'est ça qu'il dit? Quel est le critère que Jésus donne pour prendre soin des autres? M'aimes-tu? Seulement que cela, m'aimes-tu? Si nous aimons Jésus, nous sommes responsables de prendre soin et de nourrir ceux à qui appartient Jésus. Comme Pierre. Quelle était la position de Pierre quand Jésus lui a parlé? Un homme qui venait de le renier. Pierre devait filer cheap au bout. Est-ce que Jésus est revenu puis l'a condamné? Non. Tu m'aimes-tu? Oui. Bien, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux, prends soin des plus jeunes, prends soin des plus vieux. Nourris-les. Sois quelqu'un. Partage. Il est très difficile de faire cela dans la grande église. Ce matin, je suis venu, j'ai parlé à des gens, j'ai posé des questions, comment ça va? Ça va bien. J'ai posé à une autre personne, j'ai rencontré une autre personne, comment ça va? Ça va bien. Ah, ils m'aiment, ils m'ont dit que ça va bien. Ce n'est pas ça. C'est très difficile de créer un environnement, de créer une communion qui favorise la communion. En passant, la communion, c'est mettre en commun. Pour favoriser la communion, nous avons besoin d'un cercle. Nous avons besoin d'un cercle. Nous avons besoin d'un cercle où plus de personnes vont être capables d'être en contact avec un petit cercle, plus intime. Où il va se dire des choses que l'on ne dira jamais dans la grande assemblée. Où il va se dire des choses qui vont m'emmener sur le chemin de la guérison. Un cercle où l'amour en action sera plus visible que dans la grande assemblée. Un cercle où l'authenticité pourra être présente. On parle de notre deuxième signe vital, la communion des saints. Nous avons besoin, tous et chacun, d'expérimenter une véritable communion des saints pour grandir. On a besoin d'être authentiques les uns en face des autres. Et en même temps, nous avons besoin d'expérimenter un véritable amour. Pas celui qui juge et qui reprend constamment, mais celui qui comprend et compatit. Pour ça, on a besoin de développer des liens de confiance. Des liens qui me font dire, je peux donner ma confiance à mon cercle. Je peux enlever mon masque. Je peux du moins en partie commencer tranquillement, doucement à me révéler. Je peux le faire. Mettre sa confiance en quelqu'un est une marque d'amour. Respecter la confidence de quelqu'un est aussi une marque d'amour. Lorsque quelqu'un me fait suffisamment confiance pour me confier une partie de sa relation, de sa situation, je suis honoré. Ça me touche vraiment. Et la dernière chose que je voudrais faire, c'est de trahir cette confiance-là en divulguant les propos ou avoir des pensées de jugement envers la personne. La dernière chose que je voudrais faire. Dans l'expérience de la communion des saints, il y a une formidable puissance. Être en compagnie d'une personne authentique qui aime vraiment est un baume. Si je pouvais être en votre compagnie et que je pouvais me dévoiler sans crainte, dévoiler mon cœur sans crainte d'être jugé ou ridiculisé ou diminué, vous seriez là où les personnes que Dieu utiliserait pour ma guérison. C'est clair que si je suis capable de dire ce que le fond de mon cœur est, je viens à quelque part de faire un pas vers la guérison. La lettre de Jacques en fait mention spécifiquement de cette situation. Dans Jacques, et j'y arrive, Jacques au chapitre 5 et au verset 15, excusez. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière est une grande efficacité. Il était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas une pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. La maladie qui est question ici n'est pas la maladie physique. En passant, Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie physique que vous pouvez imaginer. Il n'y a rien à sa limite. Mais dans le texte, ce n'est pas cela qui est question. Dans le texte, c'est plutôt des maladies spirituelles. La faiblesse spirituelle, le laisser-aller spirituel, l'épuisement spirituel. Et de ces états, il se produit des péchés. De ces états, il se produit quelque chose de pas selon la volonté de Dieu. Notre responsabilité à chacun n'est pas la croissance des autres. Notre responsabilité est d'être ce juste qui priera pour les besoins spirituels et des personnes qui sont autour de nous. Des besoins spirituels et authentiques de nos frères et de nos sœurs. La semaine prochaine, Dieu voulant, je vais en parler de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est être authentique? Je vous le répète, la responsabilité de la direction de l'Église est de mettre en place un environnement propice au partage et à la véritable communion. On a confiance que Dieu va utiliser les groupes connexion pour que cet environnement se développe. Tranquillement, doucement, avec beaucoup de temps devant nous. On ne veut pas rien précipiter. On ne veut pas que les gens se sentent mal à l'aise. Mais on veut que les gens grandissent, se développent. Et c'est là ce pourquoi nous sommes ici, se développer spirituellement. Sinon, qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie? Si vous ne voulez pas grandir spirituellement, qu'est-ce que Dieu a à faire dans votre vie? C'est important. C'est un signe vital. Mes filles sont rendues adultes et y roulent par eux-mêmes. Je suis content de cela. Je serais moins content s'il était encore à la suce à 30 ans et d'y suivre comme ça. Viens, ma fille. Ça existe, je sais que ça existe. Mais c'est un drame dans la vie des gens. Nous sommes ici pour grandir. On n'est pas ici pour tuer le temps. Ah, il fait beau aujourd'hui, je vais aller. Non, on est ici pour grandir. Et l'Église, ça reste là. Paul en fait mention dans Philippiens. Je m'excuse, ici, la panacée de Jacques, vous avez vu le mot, mais peut-être que vous ne savez pas c'est quoi. Panacée, vous vous rappelez, dans les Grecs anciens, c'était un remède qui guérit tout, ou qui guérit beaucoup de choses. Et j'ai voulu faire mon intelligent matin. Okay? La panacée, c'est quelque chose qui guérit beaucoup de choses. Et la prière est quelque chose qui guérit beaucoup de choses aussi. La prière du juste est efficace. Dans Philippiens, Dieu a commencé une œuvre qui la rendra parfaite, c'est-à-dire qu'elle est en processus de perfection. Et quelques versets plus loin, il demande même dans ses prières que l'amour augmente dans nos cœurs. Une œuvre qui se veut, qui se rend à la perfection, et une œuvre qui augmente l'amour dans nos cœurs. Posons-nous la question. Comment puis-je augmenter l'amour que j'ai envers mes frères et mes sœurs? Comment puis-je vraiment aimer ceux que Dieu a mis autour de moi? En lui demandant dimanche matin comment ça va? Vous trouvez que c'est suffisant? Ou en allant plus loin? On a voulu aller plus loin que les groupes de prière que l'on connaissait. On a voulu mettre l'accent sur la connexion entre les chrétiens. Maintenant, je vais arrêter les explications sur le groupe connexion parce que la semaine prochaine, je vais vraiment en parler plus longuement et plus en ayant plus de détails. Finalement, étant donné que le temps avance, on a le troisième signe vital. Être une influence pour ceux du dehors. Je suis en faveur de toutes sortes d'efforts d'évangélisation qui peuvent être créés dans le monde. Distribuer du café dans les parcs et réussir à jaser de Dieu. Donner des cadeaux avec les cinq couleurs qui parlent de la croix. Faire des spectacles en plein air pour faire réfléchir les gens sur leur salut. Faire la distribution de traités porte à porte. Organiser un cinéma avec des films évangéliques. S'impliquer dans la communauté en vendant en rabais toutes sortes de choses. Faire des soirées d'évangélisation comme on voyait dans les années 80. Faire l'homme sandwich pendant que les autres approchent Dieu pour leur parler, pendant que les autres approchent les gens pour leur parler de Dieu. Je l'ai fait ça. Je l'ai fait au centre-ville de Toronto. J'ai aussi monté sur une petite boîte au centre-ville de San Francisco, puis j'ai annoncé le Seigneur, comme on voit dans les films. Avez-vous d'autres idées? Avez-vous d'autres projets? Je suis acheteur. J'achète n'importe quel effort d'évangélisation, et si vous me donnez des bras, on le fait. On est d'accord là-dessus? Je vais vous en proposer une autre méthode d'évangélisation. Cette méthode se retrouve dans les passages de la Bible. J'aimerais qu'on regarde dans Jean, au chapitre 13, s'il vous plaît. Jean, au chapitre 13, et au verset 34. 13 et 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Un véritable amour qui se développe parmi nous, si on lui donne l'occasion de se développer, si on lui donne l'opportunité, si on est dans un environnement qui peut se développer, va être utilisé pour Dieu pour influencer ceux de l'extérieur. À reconnaître que Dieu peut progresser, peut faire progresser l'amour dans nos cœurs. Et ceux qui sont appelés à Dieu vont reconnaître que c'est ce genre d'amour-là qu'ils ont besoin. J'étais dans un certain cours, à un moment donné, où ce que la personne disait, on a de la misère à approcher les gens, leur annoncer l'Évangile. On a l'impression qu'on n'atteint pas. La réponse a été, aime-les. Aime-les en premier. Fais quelque chose avec eux autres. Fais quelque chose pour eux autres. Prie pour eux autres. Je pourrais vous donner des exemples. J'ai fait le test, puis ça fonctionne. Ils n'ont pas accepté le Seigneur à ma présence. Ils vont peut-être le faire plus tard. Mais j'ai montré à quelque part, à quelqu'un, que l'amour de Dieu peut être aussi pour eux. Dans le verset, Jésus mentionne « comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Comment est-ce qu'il nous a aimés? Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il a eu un amour inconditionnel. Un amour qui a repris avec douceur. Oui, on peut se reprendre. Oui, je peux vous dire quelque part, vous n'êtes pas correct, mais je veux le faire avec douceur. Parce que c'est ce qui nous évite les pièges de la vie. Un amour qui, malgré les nombreux écarts, il ne nous a jamais abandonnés. Et un amour qui n'a rien caché que nous avions besoin d'entendre pour le connaître et l'aimer. Dans Jean 15:15, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai tout dit, j'ai mis mon cœur sur vous. » En conclusion, les changements de notre vie, les changements qui doivent s'opérer dans nos vies, ne dépendent pas de ceux qui nous entourent, aussi proches qu'ils puissent être. Ce qui a fait ce que nous sommes devenus aujourd'hui vient de quatre choses. Ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, ce que nous avons fait que nous ne devrions pas avoir fait, et ce que nous n'avons pas fait que nous aurions dû faire. Ces quatre choses-là nous définissent aujourd'hui. Notre éternité est entre les mains de Dieu. On est d'accord là-dessus? Notre éternité est entre les mains de Dieu. Mais nous, nous devons choisir de grandir. C'est un choix que l'on doit faire. Et si vous pensez que vous devez être un meilleur travaillant, un meilleur père, un meilleur ci, un meilleur ça, un meilleur pensez ce que vous voulez, vous devez d'abord être un meilleur chrétien et vous allez englober tout ce qui va suivre. Parce que c'est la base de votre vie. Si Dieu est dans votre vie, c'est la base de votre vie. Seigneur Dieu, on se rend compte de l'importance. On se rend compte, Seigneur, que grandir, c'est ce que tu souhaites que je sois, que je fasse. Tu veux que je sois grand pour toi. Tu veux, quelque part, que je m'améliore jour après jour. Tu veux, Seigneur, que je dépende de toi et que je cherche toujours ta volonté. Permets, Seigneur, dans ma vie intime, ce matin, lorsque je vais retourner chez moi, dans l'auto peut-être, ou dans ma chambre lorsque je serai seul, ou peut-être en compagnie de mon épouse lorsque je discuterai. Permets, Seigneur, que je fasse le choix éclairé de grandir et permets aussi que je puisse le dire à ceux autour de moi. J'ai fait le choix de grandir.